Henri Poincaré, La valeur de la science, chapitre 1er. L'intuition et la logique en mathématiques. Il est impossible d'étudier les œuvres des grands mathématiciens, et même celles des petits, sans remarquer et sans distinguer deux tendances opposées, ou plutôt deux sortes d'esprits entièrement différents. Les uns sont avant tout préoccupés de la logique. À lire leurs ouvrages, on est tenté de croire qu'ils n'ont avancé que pas à pas avec la méthode d'un Vauban qui pousse ses travaux d'approche contre une place forte sans rien abandonner au hasard. Les autres se laissent guider par l'intuition et font du premier coup des conquêtes rapides, mais quelquefois précaires, ainsi que de hardis cavaliers d'avant-garde. Ce n'est pas la matière qu'ils traitent qui leur impose l'une ou l'autre méthode. Si l'on dit souvent des premiers qu'ils sont des analystes, et si l'on appelle les autres géomètres, cela n'empêche pas que les uns restent analystes même quand ils font de la géométrie, tandis que les autres sont encore des géomètres même s'ils s'occupent d'analyse pure. C'est la nature même de leur esprit qui les fait logiciens ou intuitifs. Et ils ne peuvent la dépouiller quand ils abordent un sujet nouveau. Ce n'est pas non plus l'éducation qui a développé en eux l'une des deux tendances et qui a étouffé l'autre. On est mathématicien, on ne le devient pas. Et il semble aussi qu'on est géomètre ou qu'on est analyste. Je voudrais citer des exemples, et certes, ils ne manquent pas, mais pour accentuer le contraste, je voudrais commencer par un exemple extrême. Pardon si je suis obligé de chercher auprès de deux mathématiciens vivants. Monsieur Méret veut démontrer qu'une équation binôme a toujours une racine, ou, en termes vulgaires, qu'on peut toujours subdiviser un angle. S'il est une vérité que nous croyons connaître par intuition directe, c'est bien celle-là. Qui doutera qu'un angle peut toujours être partagé en un nombre quelconque de parties égales? Monsieur Méret n'en juge pas ainsi. À ses yeux, cette proposition n'est nullement évidente, et pour la démontrer, il lui faut plusieurs pages. Voyez au contraire Monsieur Klein. Il étudie une des questions les plus abstraites de la théorie des fonctions. Il s'agit de savoir si, sur une surface de Riemann donnée, il existe toujours une fonction admettant des singularités données. Que fait le célèbre géomètre allemand? Il remplace sa surface de Riemann par une surface métallique dont la conductibilité électrique varie suivant certaines lois. Il met deux de ses points en communication avec les deux pôles d'une pile. Il faudra bien, dit-il, que le courant passe. Et la façon dont ce courant sera distribué sur la surface définira une fonction dont les singularités seront précisément celles qui seront prévues par l'énoncé. Sans doute, M. Klein sait bien qu'il n'a donné là qu'un aperçu. Toujours est-il qu'il n'a pas hésité à le publier. Et il croyait probablement y trouver, sinon une démonstration rigoureuse, du moins je ne sais quelle certitude morale. Un logicien aurait rejeté avec horreur une semblable conception, ou plutôt, il n'aurait pas eu à la rejeter car, dans son esprit, elle n'aurait jamais pu naître. Permettez-moi encore de comparer deux hommes qui sont l'honneur de la science française, qui nous ont été récemment enlevés, mais qui, tous deux, étaient depuis longtemps entrés dans l'immortalité. Je veux parler de M. Bertrand et de M. Hermite. Ils ont été élèves de la même école, et en même temps. Ils ont subi la même éducation, les mêmes influences, et pourtant, quelle divergence! Ce n'est pas seulement dans leurs écrits qu'on la voit éclater, c'est dans leur enseignement, dans leur façon de parler, dans leur aspect même. Dans la mémoire de tous leurs élèves, Ces deux physionomies se sont gravées en traits ineffaçables. Pour tous ceux qui ont eu le bonheur de suivre leurs leçons, ce souvenir est encore tout récent. Il nous est aisé de l'évoquer. Tout en parlant, M. Bertrand est toujours en action. Tantôt il semble aux prises avec quelque ennemi extérieur, tantôt il dessine d'un geste de la main les figures qu'il étudie. Évidemment, il voit, et il cherche à peindre. C'est pour cela qu'il appelle le geste à son secours. Pour M. Hermite, c'est tout le contraire. Ses yeux semblent fuir le contact du monde. Ce n'est pas au dehors, c'est au dedans qu'il cherche la vision de la vérité. Parmi les géomètres allemands de ce siècle, deux noms surtout sont célèbres. Ce sont ceux des deux savants qui ont fondé la théorie générale des fonctions, Weierstrass et Riemann. Weierstrass ramène tout à la considération des séries et à leur transformation analytique. Pour mieux dire, il réduit l'analyse à une sorte de prolongement de l'arithmétique. On peut parcourir tous ces livres sans y trouver une seule figure. Riemann, au contraire, appelle de suite la géométrie à son secours. Chacune de ces conceptions est une image que nul ne peut oublier dès qu'il en a compris le sens. Plus récemment, Lee était un intuitif. On aurait pu hésiter en lisant ses ouvrages, on n'hésitait plus après avoir causé avec lui. On voyait tout de suite qu'il pensait en images. Madame Kowalewski était une logicienne. Chez nos étudiants, nous remarquons les mêmes différences. Les uns aiment mieux traiter leurs problèmes par l'analyse, les autres par la géométrie. Les premiers sont incapables de voir dans l'espace, les autres se lasseraient promptement des longs calculs et s'y embrouilleraient. Les deux sortes d'esprits sont également nécessaires au progrès de la science. Les logiciens, comme les intuitifs, ont fait de grandes choses que les autres n'auraient pas pu faire. Qui oserait dire s'il aimerait mieux que Weierstrass n'eût jamais écrit? Ou, s'il préférerait, qu'il n'y eût pas eu de Riemann. L'analyse et la synthèse ont donc toutes deux leur rôle légitime. Mais il est intéressant d'étudier de plus près quelle est, dans l'histoire de la science, la part qui revient à l'une et à l'autre. Chose curieuse. Si nous relisons les œuvres des anciens, nous serons tentés de les classer tous parmi les intuitifs. Et pourtant, la nature est toujours la même. Il est peu probable qu'elle ait commencé dans ce siècle à créer des esprits amis de la logique. Si nous pouvions nous replacer dans le courant des idées qui régnaient dans leur temps, nous reconnaîtrions que beaucoup de ces vieux géomètres étaient analystes par leur tendance. Euclide, par exemple, a élevé un échafaudage savant où ses contemporains ne pouvaient trouver de défaut. Dans cette vaste construction, dont chaque pièce pourtant est due à l'intuition, nous pouvons encore aujourd'hui, sans trop d'efforts, reconnaître l'œuvre d'un logicien. Ce ne sont pas les esprits qui ont changé, ce sont les idées. Les esprits intuitifs sont restés les mêmes, mais leurs lecteurs ont exigé d'eux plus de concessions. Quelle est la raison de cette évolution? Il n'est pas difficile de la découvrir. L'intuition ne peut nous donner la rigueur, ni même la certitude. On s'en est aperçu de plus en plus. Citons quelques exemples. Nous savons qu'il existe des fonctions continues dépourvues de dérivées. Rien de plus choquant pour l'intuition que cette proposition qui nous est imposée par la logique. Nos pères n'auraient pas manqué de dire « il est évident que toute fonction continue a une dérivée puisque toute courbe a une tangente ». Comment l'intuition peut-elle nous tromper à ce point? C'est que quand nous cherchons à imaginer une courbe, nous ne pouvons pas nous la représenter sans épaisseur. De même, quand nous nous représentons une droite, nous la voyons sous la forme d'une bande rectiligne d'une certaine largeur. Nous savons bien que ces lignes n'ont pas d'épaisseur. Nous nous efforçons de les imaginer de plus en plus minces et de nous rapprocher ainsi de la limite. Nous y parvenons dans une certaine mesure, mais nous n'atteindrons jamais cette limite. Et alors il est clair que Nous pourrons toujours nous représenter ces deux rubans étroits, l'un rectiligne, l'autre curviligne, dans une position telle qu'ils empiètent légèrement l'un sur l'autre sans se traverser. Nous serons ainsi amenés, à moins d'être avertis par une analyse rigoureuse, à conclure qu'une courbe a toujours une tangente. Je prendrai comme second exemple le principe de Dirichlet, sur lequel reposent tant de théorèmes de physique mathématique. Aujourd'hui, on l'établit par des raisonnements très rigoureux, mais très longs. Autrefois, au contraire, on se contentait d'une démonstration sommaire. Une certaine intégrale dépendant d'une fonction arbitraire ne peut jamais s'annuler. On en concluait qu'elle doit avoir un minimum. Le défaut de ce raisonnement nous apparaît immédiatement parce que nous employons le terme abstrait de fonction et que nous sommes familiarisés avec toutes les singularités que peuvent présenter les fonctions quand on entend ce mot dans le sens le plus général. Mais il n'en serait pas de même si l'on s'était servi d'images concrètes, si l'on avait par exemple considéré cette fonction comme un potentiel électrique. On aurait pu croire légitime d'affirmer que l'équilibre électrostatique peut être atteint. Peut-être cependant une comparaison physique aurait éveillé quelques vagues défiances. Mais si l'on avait pris le soin de traduire le raisonnement dans le langage de la géométrie, intermédiaire entre celui de l'analyse et celui de la physique, ces défiances ne se seraient sans doute pas produites. Et peut-être pourrait-on ainsi, même aujourd'hui, tromper encore bien des lecteurs non prévenus. L'intuition ne nous donne donc pas la certitude. Voilà pourquoi l'évolution devait se faire. Voyons maintenant comment elle s'est faite. On n'a pas tardé à s'apercevoir que la rigueur ne pouvait pas s'introduire dans les raisonnements si on ne la faisait entrer d'abord dans les définitions. Longtemps, les objets dont s'occupent les mathématiciens étaient pour la plupart mal définis. On croyait les connaître parce qu'on se les représentait avec les sens ou l'imagination. Mais on n'en avait qu'une image grossière et non une idée précise sur laquelle le raisonnement put avoir prise. C'est là, d'abord, que les logiciens ont dû porter leurs efforts. Ainsi pour le nombre incommensurable. L'idée vague de continuité que nous devions à l'intuition s'est résolu en un système compliqué d'inégalités portant sur des nombres entiers. Par là, les difficultés provenant des passages à la limite ou de la considération des infiniment petits se sont trouvées définitivement éclaircies. Il ne reste plus aujourd'hui en analyse que des nombres entiers ou des systèmes finis ou infinis de nombres entiers reliés entre eux par un réseau de relations d'égalité ou d'inégalité. Les mathématiques, comme on l'a dit, se sont arithmétisées.